Bonjour, je suis Nicolas Dufresne et vous écoutez La fourmi dans la coquille, le podcast hélicoïdal. Cinq cloches, cinq notes, cinq couleurs. La fourmi dans la coquille, saison 2, épisode 9, 5 couleurs chinoises. Cette semaine, non pas un ni deux, mais bien trois épisodes, certes trois fois plus courts que d'habitude, donc ça revient à peu près au même, simplement je pense que pour les épisodes qui vont venir, c'est plus intéressant et plus pratique pour vous d'avoir des épisodes un peu plus courts, vous allez voir. Ou plutôt, vous allez entendre. Alors que la semaine dernière, on découvrait l'usage de la couleur dès 40 000 ans avant notre ère, cette semaine, je vous invite en Chine, en Égypte et dans la Grèce antique pour découvrir les symboles qui peuvent être associés à l'usage de ces couleurs, parce que maintenant que l'écriture a été inventée, nous avons des traces et des explications qui nous permettent d'associer ces couleurs à des symboles culturels importants. Sima Qian, qui a vécu au 1er siècle avant notre ère, est le premier historien chinois à avoir tenté d'écrire l'histoire de la Chine depuis sa création, ce qu'on appelle le Shiji, qui débute par l'époque de Huangdi. Huangdi est un souverain mythique de la haute antiquité chinoise qui aurait régné pendant un siècle entier il y a plus de 4000 ans. De 2697 à 2597 avant notre ère, pour ceux qui veulent être précis. La tradition le considère comme le père de la civilisation chinoise, le premier des cinq empereurs légendaires qui auraient régné avant la première dynastie, celle qu'on appelle la Qia. Devenu un dieu taoïste, on le surnomme aussi l'empereur jaune, celui qui est lié à la terre, plus particulièrement le centre du monde. Avec quatre visages, l'empereur jaune aurait été capable de regarder en même temps dans les quatre directions, vers les quatre points cardinaux. Son adversaire était redoutable, c'était le violent Qiyu, qui contrôlait le brouillard, la pluie et le vent. Et c'est en faisant appel à Ba, la déesse de la sécheresse, que l'empereur jaune a pu vaincre Qiyu, et depuis Ba, qui n'est jamais retournée dans le ciel d'où elle venait, cause l'arrêt des pluies partout où elle passe. Ces histoires se passent près du fleuve jaune, qui est le deuxième plus long fleuve de Chine après le Yangtze, et c'est là qu'est née la civilisation chinoise il y a 5800 ans. Il doit son nom, jaune, à la couleur boueuse, charriant de grandes quantités d'alluvions qui fertilisent la grande plaine du nord de la Chine, et il est surtout réputé pour ses crues désastreuses et ses nombreux changements de cours tout au long de l'histoire de la Chine. On comprend mieux du coup l'importance de la déesse de la sécheresse dans ce contexte, et aussi de la couleur jaune qui est depuis toujours primordiale dans la culture chinoise, qui est devenue la couleur du pouvoir et dont la teinte sur les vêtements a été réservée exclusivement à l'empereur sous les dynasties Ming et Qing, c'est-à-dire entre 1368 et 1912 de notre ère. Le tapis de fonction, que moi-même j'appelle souvent tapis rouge parce que je suis français, il était également jaune en Chine, en fait, avant que l'Occident n'y exerce son influence. Le qi, le flux d'énergie naturelle qui forme et anime l'univers et la vie, apparaît vers le 10e siècle avant notre ère en Chine. Il apparaît un peu avant ce qu'on appelle les wuxing, qui sont les cinq agents qu'on va associer au qi, ce flux d'énergie naturelle qui anime l'univers, qui apporte la vie. Ces cinq agents, ces cinq wuxing, sont le métal, le bois, le feu, l'eau, la terre, ils sont les substances naturelles fondamentales qui permettent ensuite de catégoriser métaphoriquement tous les objets et les phénomènes du monde naturel. Le qi et les wuxing seront par la suite unifiés avec le yin et le yang qui apparaissent plus tard au 3e siècle avant notre ère et qui auront un impact considérable sur l'histoire de la pensée chinoise. Dans ce système de wuxing, les correspondances sont pentanaires, c'est-à-dire qu'elles vont par 5 et elles revêtent une importance capitale qu'on retrouve dans le Huangdi Neijing, c'est-à-dire le classique interne de l'empereur jaune, le plus ancien ouvrage de médecine traditionnelle qui date des premiers siècles avant notre ère, qui dit, je cite, « L'homme est en union avec la voie céleste, À l'intérieur du corps, il y a 5 viscères en correspondance avec les 5 sons, les 5 couleurs, les 5 époques, les 5 saveurs, les 5 positions. Les 5 sons font référence à la gamme pentatonique de la musique traditionnelle chinoise. Et les 5 couleurs sont blanc pour le métal, vert pour le bois, noir pour l'eau, rouge pour le feu et jaune, on l'a dit, pour la terre, fertilisée par le fleuve jaune. Le jaune et la terre revêtent une importance particulière. Ils sont situés au centre des 4 autres essences qui peuvent représenter du coup les 4 points cardinaux. Le feu rouge pour l'été et le sud, le métal blanc pour l'ouest et l'automne, l'eau noire pour le nord et l'hiver, et le bois vert pour le printemps et l'est, tandis que la terre jaune sert de pivot central. Ces associations de couleurs et des 5 éléments sont assez différentes des associations dont on a l'habitude ici en Europe. Et ça nous rappelle encore qu'au-delà de l'opposition du blanc et du noir, la symbolique des couleurs est essentiellement culturelle. Le Guangxi, l'encyclopédie des premiers siècles avant notre ère, nous aide à comprendre l'association de ces couleurs, des éléments et de leur symbolique. On y lit « L'empereur jaune, afin d'accorder les 5 cloches, établit les notes de musique et, soufflant fort ou doucement, il nomma ainsi les 5 cloches. La première fut appelée « cloche verte au grand son ». La seconde, cloche rouge au son solennel. La troisième, cloche jaune dispersant la lumière. La quatrième, cloche blanche aveuglante dans sa brillance. La cinquième, cloche noire rassurante dans sa constance. Ces 5 wuxing sont des éléments dynamiques, ils ne sont pas statiques. L'eau humidifie et coule, le feu brûle et s'élève, le bois courbe et se redresse, le métal adopte la forme qu'on lui demande et la terre se cultive. On en tire donc 2 cycles, un cycle créateur et un cycle destructeur de domination. Dans le cycle de génération, dans le cycle créateur, le bois peut être allumé pour produire le feu. Le feu lui-même brûle et produit les cendres qui retournent à la terre, alors que la terre engendre les minéraux et le métal qui peut fondre comme l'eau et qui arrose et fait pousser les arbres et retourne au bois. Et le cycle recommence. Dans le cycle de domination ou de destruction, le cycle inverse, le bois puise la terre qui elle-même absorbe l'eau. L'eau éteint le feu qui fait fondre le métal qui lui-même tranche le bois. On a donc 2 cycles complémentaires et le yin et le yang de leur côté figurent les oppositions binaires comme ces 2 cycles. Le yang domine, il est le qi en mouvement qui augmente tandis que le yin est dominé, il est le qi qui revient à la quiétude. La terre, l'hiver, le deuil et les roturiers sont yin, tandis que le ciel, l'été, la naissance et les nobles sont yang. Le rouge, qui est masculin, actif et chaud, est yang, tout comme le blanc éclatant, alors que le noir et le bleu, froid, sont féminins. Le rouge du feu, qui peut aussi évoquer le sang, pouvait anciennement avoir une connotation négative, mais il a été porté lors des mariages pour effrayer les mauvais esprits. Et du coup, avec le temps, son sens négatif a été oublié, il est devenu une couleur de fête, un symbole de chance, de succès et de réussite financière. Il est en particulier la couleur du printemps, le nouvel an chinois, et les robes de mariée sont rouges. Le blanc, de son côté, qui est la pureté et la luminosité du métal, accompagne les défunts, c'est la couleur du deuil. Alors que le noir profond de l'eau symbolise le sérieux, le formel, la stabilité, le pouvoir et aussi le secret. La mafia, en chinois, ça se dit société noire. Le vert, quant à lui, celui du bois, rappelle la fertilité et le renouvellement. Mais porter un chapeau vert signifie être cocu, et les malades ou les personnes en colère ont un visage vert, ce qui n'est pas sans rappeler ceux qui sont verts de rage ou dégoûtés en français. Associer vert et rouge est une faute de goût en Chine, comme d'ailleurs en Europe. Et on peut se demander si on ne tient pas là quelque chose d'universel qui serait une conséquence du fonctionnement même de nos yeux et de notre système nerveux visuel qui sont calibrés précisément pour faire contraster ces 2 couleurs. On comprend en tout cas pourquoi, des 2 côtés du monde, si la peau d'un naturel plutôt rosé coloré par le sang prend une teinte verte, c'est plutôt mauvais signe. Dans le prochain épisode, on traverse le continent eurasiatique pour aller jusqu'en Afrique et en Égypte. On change pas de période, on reste à l'Antiquité et on découvre les couleurs de l'Égypte antique, le berceau du premier pigment artificiel. J'espère que ce podcast vous plaît toujours autant. En tout cas, je vous invite à me le dire, que ça vous plaise ou pas. Je vous invite à me faire des retours à l'adresse contact@lafourmi.media ou bien sur les réseaux sociaux où je suis présent, c'est-à-dire Mastodon, Blue Sky, LinkedIn et Instagram. En tout cas, si ça vous plaît, je vous invite encore aussi à partager l'épisode, à le liker, mettre des étoiles, des petits cœurs, des notes et des commentaires sur votre plateforme d'écoute. Et je me permets une parenthèse pour ceux qui nous écoutent depuis le site internet. Vous pouvez facilement, avec des applications libres et open source, notamment comme AntennaPod, vous abonner au podcast et ne rater aucun épisode. Sinon, vous pouvez aussi vous abonner à la newsletter sur le site internet pour ne rien rater, y compris les conférences que je donne de temps en temps ici et là à propos des sujets abordés par le podcast, c'est-à-dire en ce moment pas mal de conférences à propos de l'intelligence artificielle qui était le sujet de la première saison. Et je vous rappelle d'ailleurs en passant que cette première saison a donné lieu à la publication d'un livre, lui aussi disponible sur lafourmi.media. Bref, plein de choses à partager. N'hésitez pas à venir faire un tour sur le site internet pour découvrir tout ça. Moi je vous dis encore une fois à la semaine prochaine avec grand plaisir et grand bonheur. Je sais pas pour vous, mais moi, j'adore ça, enregistrer ce podcast. Et j'espère pouvoir continuer encore longtemps. Merci pour votre écoute. À bientôt. C'était La fourmi dans la coquille, le podcast hélicoïdal par Nicolas Dufresne. Merci à Anna Alcé pour son travail de relecture et à mon ami Wassaru pour sa musique. Ce podcast est entièrement réalisé avec des logiciels libres et open source. N'hésitez pas à m'envoyer vos questions et vos réactions à contact@lafourmi.media. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez soutenir le podcast sur lafourmi.media où vous pourrez faire un don et nous rejoindre sur les réseaux sociaux ou vous abonner à la lettre d'information du podcast.
The more I hear about this, I mean, it just gets crazier and crazier.